Mama.
Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Allez, c'est reparti, on est dans un nouvel épisode du Corée Voyage Show. Aujourd'hui, je suis avec Julien, alias Giuliani. Comment ça va, babes, babene, la forme? Comment est-ce, Julien?
Oui, bonjour à tous. Oui, impeccable. Et toi, Félix?
Moi, ça va, tranquille, Emile.
Alors, on commence avec un autre volet pouleng. Mais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'occitan, peux-tu nous expliquer ce terme?
Alors, cette fois-ci, je vais vous la faire courte. Bouleg, ça veut tout simplement dire mélanger, secouer en occitan. Mais pourquoi bouleg, me direz-vous? Eh bien, parce que cette rubrique interview est faite pour faire bouger les idées, secouer les esprits et parler de sujets de société peu ou pas abordés en Corée, du moins en français.
Alors oui, effectivement, on aborde très peu le sujet de l'adoption en Corée et encore moins celui des familles biologiques. Aujourd'hui, je profite de bouleg pour vous parler de mes recherches, de la rencontre avec ma mère biologique, de la relation que j'ai avec elle. Et enfin, on continuera sur une partie voyage où je vous emmènerai à Gyeongsangbuk-do, la région nord de Gyeongsan, dans le village Hawae, situé à l'ouest de la ville de Andong.
Ok, merci Julien. Encore un programme espantant ou épatant, mon cher Giuliani, et ouvrons donc le bal avec bouleg. Alors Julien, déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est déroulé le processus de tes recherches, la durée, combien de temps ça a pris, les différents organismes impliqués, etc.
Alors oui, dans un premier temps, il faut savoir que chaque adopté possède un dossier conservé par le HALT. Donc le HALT, c'est l'agence d'adoption par laquelle sont attachés les adoptés français.
Oui, c'est ça. Tous les adoptés français ont été adoptés par HALT. Alors en Corée, il existe 4 agences d'adoption qui sont HALT, KSS, qui est maintenant KWS, SWS et ESWS. Alors, pour nos amis suisses ou belges qui n'auraient pas été adoptés par HALT, il se peut que vous ayez été adopté par l'agence KSS ou éventuellement SWS, peut-être. Pour en revenir à HALT, alors c'est une agence d'adoption internationale qu'on retrouve également dans plusieurs pays d'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud, etc. Au passage, la maison mère de HALT se trouve aux États-Unis puisque c'est une agence américaine dans l'état de l'Oregon. Et il faut bien faire la distinction entre votre agence d'adoption en Corée et votre agence d'adoption en France. Alors en France, il existe plusieurs agences d'adoption comme le Rayon du Soleil par exemple, la Cause ou encore les Amis des Enfants du Monde pour ne citer que. Pour parler rapidement des dossiers, donc habituellement un adopté français possède un numéro de dossier qui commence par la lettre K suivi de chiffres qui peuvent correspondre à l'année de naissance. Après finalisation de l'adoption, un dossier était envoyé aux parents adoptifs en France. Ce dossier contenait les informations relatives à l'enfant adopté, comme des informations médicales, un historique éventuellement sur les circonstances de l'adoption, alors que notre dossier était lui conservé en Corée, dossier qui pouvait dans certains cas être soit identique, soit plus ou moins complet que le dossier envoyé en France.
Oui, pour mon cas, c'était le cas. Mon dossier que j'avais en France était... Il y avait des similarités, mais il y avait certaines différences... Il y a des informations complémentaires sur le dossier qui se trouvait en Corée dans l'agence du HALT.
Oui, alors ça n'arrive pas dans tous les cas, mais sachez que ça peut arriver.
Alors donc oui, pour revenir à mon cas, c'était lors de mon premier voyage en Corée du Sud en 2013. Donc c'est un voyage qui a été organisé par l'association Racine Coréenne. J'ai eu l'opportunité de consulter mon dossier d'adoption directement dans les bureaux du HALT. Au départ, je n'avais pas prévu de faire cette visite, mais finalement j'avais décidé de suivre le groupe, plus par curiosité que par nécessité de retrouver mes parents biologiques. Et là, surprise, il s'est avéré que mon dossier possédait la pièce d'identité de ma mère biologique. L'assistante sociale qui travaillait à HALT m'a alors proposé d'envoyer une requête au gouvernement pour savoir si ma mère biologique avait effectué le dernier recensement. Ça permet de pouvoir retrouver l'adresse de la personne si la personne a fait le dernier recensement.
Alors déjà, il faut savoir qu'avoir le numéro d'identité d'un de ses parents biologiques dans son dossier, c'est quelque chose de plutôt rare, Lorsque cela arrive, il se peut qu'après avoir vérifié auprès du gouvernement, on ait un retour négatif avec un numéro incorrect pour diverses raisons. Soit car il s'agit d'une simple erreur, soit parce que la personne avait communiqué un faux numéro. Mais bon, restons sur la première hypothèse pour rester dans une ambiance positive.
C'est vrai qu'à l'époque, c'est des dossiers qui ont été... Enfin, il y a eu beaucoup d'adoptions à l'époque, car je pense que parfois, ils ont dû un peu faire les dossiers à l'arrache et forcément, ils doivent revérifier les informations, j'imagine.
Oui, tu as raison de le souligner, car beaucoup d'informations ont été aussi perdues, surtout dans les années 70, 80 et même avant. mais je voulais revenir sur les démarches d'un point de vue purement administratif. Si on reprend ton exemple, Julien, donc Holt doit désormais passer par un organisme gouvernemental qui s'appelle le NCRC, qui est le National Center for the Rights of the Child, qui était autrefois appelé KAS, donc CAS, Korea Adoption Center. Ils ont changé le nom l'année dernière. Donc ça, c'est en théorie, bien sûr, puisque depuis 2012, déjà, tous les dossiers d'adoption devaient être transférés des agences d'adoption vers cet organisme gouvernemental. Bon, ce qui n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. Donc en théorie, on doit passer par un organisme gouvernemental. C'est le NCRC qui a l'autorité légale d'entreprendre des recherches, notamment via les postes de police, les mairies et autres. Au mois d'août 2012, un texte de loi spécial sur l'adoption est voté en Corée, le Special Adoption Act, qui s'articule sur deux axes. Le premier concerne les familles biologiques, qui doivent attendre une période de 7 jours avant d'entreprendre des démarches d'adoption. Alors, on pourrait se dire, avant 2012, comment ça se passait ? Est-ce que les familles biologiques pouvaient envoyer un bébé à l'adoption dès la naissance, hein ? Par ailleurs, les parents biologiques doivent désormais obtenir une autorisation auprès du tribunal avant d'envoyer un enfant à l'adoption. Ceci est alors enregistré, documenté administrativement et représente, dans certains cas, un élément dissuasif pour la famille biologique. En d'autres termes, on est censé désormais y réfléchir à deux fois avant de faire adopter un enfant par rapport à avant où toutes ces contraintes n'existaient pas. Et le deuxième volet légal concerne les familles adoptives qui font l'objet d'une enquête portant sur d'éventuels antécédents criminels comme l'utilisation de stupéfiants ou des cas de violence infantile, domestique ou toute autre activité en corrélation avec ces sujets-là. Alors vous allez me dire, mais avant de le passer, est-ce que ce n'était pas le cas? Il n'y avait pas d'enquête? Alors si, il y avait une enquête d'adoption conduite par une assistante sociale en France auprès des familles adoptives, mais peut-être pas d'une manière aussi approfondie, aussi détaillée et aussi poussée et officielle. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des cas dans lesquels il y a eu bien sûr des abus dans les familles adoptives après une adoption. Alors je m'éloigne un peu du sujet, mais en 2013, au mois de mai, la Corée ratifie la convention de la Haye sur l'adoption, plus précisément sur la protection des enfants et la coopération en adoption internationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça s'inscrit dans la continuité avec ce Special Adoption Act, qui est cette loi sur l'adoption, puisque le but, c'est d'une part de promouvoir les adoptions domestiques, et donc de diminuer le nombre d'adoptions internationales, et d'autre part, c'est d'améliorer les conditions d'adoption en termes de protection de l'enfant adopté. Encore une fois, on peut se poser la question, mais pourquoi avoir attendu 2013 pour ratifier cette convention ? C'est une question tout à fait légitime, puisque plusieurs pays comme la France, les États-Unis et même plusieurs pays d'Asie ont ratifié cette convention dans les années 90. Mais désolé Julien, j'ai trop tergiversé et revenons aux informations concernant ta maman biologique, puisque le fait d'avoir son numéro d'identité est une véritable chance. Hein.
Tout à fait, il y a pas mal d'adoptés hein, où il y a le dossier est vide, hein, et du coup là pour lancer les recherches, ça s'avère toujours quelque peu compliqué. Donc moi j'avais déjà le document, donc c'était... Enfin, ça facilitait déjà la première étape.
Oui, et d'autant plus qu'au départ, tu avais juste consulté ton dossier un peu au dernier moment, hein, car tu en avais eu l'opportunité.
C'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, hein, je suivais un peu le... Enfin, voilà, on était vraiment un groupe hein, à l'époque. Mais c'était pas quelque chose qui me tenait à cœur. Enfin, la première chose que je voulais faire en venant en Corée, c'était vraiment de découvrir la Corée. Après, faire mes recherches de famille biologique, hein, je dirais que ça arrivait un peu en deuxième. Hein. Mais voilà, donc on va dire c'était le petit plus du voyage.
Oui, et même le gros plus, hein, puisque là, tu as vraiment une information décisive.
Hein. Après, hein, c'est la loterie, hein, un petit peu. Hein.
Ah ben oui, après tout, on est dans le bouleg. Hein.
Je pensais à ça, justement. À l'époque, hein, donc je quittais le Holt hein, avec cette hypothétique promesse peut-être hein, de retrouver un jour ma mère biologique parce qu'effectivement, il y avait la pièce d'identité, mais on n'avait pas non plus sa localisation. Hein. Donc je suis rentré en France, hein, j'ai repris un petit peu mon train-train quotidien. J'ai pas eu de nouvelles de l'agence d'adoption hein, pendant 2 années environ. J'ai pas vraiment repensé à mes démarches de famille biologique. Hein, et enfin, j'avais quand même eu un coup de cœur hein, pour la Corée hein, quand même en 2013. Finalement, en 2015, hein, j'ai décidé de refaire un voyage, mais en solo cette fois-ci, hein, peut-être pour une autre expérience. Et au cours de ce voyage, hein, ça m'a un peu permis de me reconcentrer hein, sur mes racines, hein, de repenser à ces démarches de famille biologique. Hein. Finalement, à mon retour, hein, fin 2015, hein, j'ai décidé de relancer mes recherches de manière vraiment un peu plus sérieuse. Hein. En 2013, quand j'étais venu, hein, on m'avait parlé d'une association hein, qui s'appelle GAUL. Hein. Donc GAUL, hein, pour expliquer, c'est une association qui est implantée à Séoul et qui est gérée par des adoptés. Donc du coup, hein, cette fois-ci, on est reparti de zéro. On a repris mon dossier entièrement. Nous avons refait la requête auprès du gouvernement. Et là, surprise, en moins d'un mois, Holt m'a annoncé qu'ils avaient retrouvé ma mère biologique. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu commencer à échanger des courriers, hein, et ce, pendant 6 mois avant que je puisse la rencontrer à l'été 2016.
Donc après avoir confirmé l'adresse postale, comment est-ce que Holt établit le premier contact avec ta maman biologique ?
Donc oui, une fois qu'ils ont l'adresse en leur possession, hein, ils envoient ce qu'ils appellent, c'est assez marrant, hein, ils appellent ça un télégramme. Hein. Bon, c'est pas du tout un télégramme, hein, en fait, c'est un petit courrier, hein, qu'ils envoient à la famille de l'adopté. Hein. Donc oui, j'ai eu la possibilité de voir ce courrier. En fait, sur ce courrier, il est marqué que quelqu'un cherche à vous contacter. Si vous souhaitez rentrer en contact avec lui, veuillez rappeler l'agence d'adoption. Donc sur ce courrier d'ailleurs, il était juste écrit mon nom en coréen qui m'avait été attribué à l'époque par l'agence d'adoption, tout simplement sans plus de détails. La provenance, hein, du courrier, c'est bien mis que ça vient du Holt, donc ma mère, elle a directement compris de qui venait ce courrier.
Hein. Ok, donc 2013, tu fais les premières démarches, 2015, on t'annonce qu'on a retrouvé ta mère biologique, et 2016, donc tu pars en Corée tout seul pour aller la rencontrer, hein.
Non, cette année-là, hein, je suis venu avec mes parents adoptifs. Là, c'était la grosse excursion un petit peu. Hein. On avait fait d'abord 3 semaines de voyage ensemble. Et à la fin du voyage, ouais, il était prévu qu'on se rencontre, hein, avec ma famille coréenne. Ouais.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer les circonstances de la rencontre ?
Ma famille biologique est arrivée en premier, donc ils ont été mis dans une autre salle, hein, pour pas qu'on se voit. Bon, d'ailleurs, hein, juste pour l'anecdote, hein, avant d'aller au Holt, on était arrivé un petit peu en avance et on allait prendre un café à côté de l'agence de post-adoption, là.
Et vous êtes tombé sur ta famille biologique, mais tu le savais pas.
C'est ça.
Aïe, 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 d'accord.
Bon, eux, ils m'ont reconnu. Parce que.
Ah ouais, d'accord, forcément.
Ils ont eu un Asiatique avec des Européens.
C'est pas inaperçu, hein, ouais.
Et moi, nous, on les a pas vus, bien sûr. Hein. Du coup, quand ils m'ont vu, hein, ils sont partis discrètement et ils sont partis directement à l'agence. Hein. Du coup, oui, ma mère m'avait vu à l'époque avant la rencontre officielle, on va dire.
D'accord, donc vous auriez très bien pu vous rencontrer dans ce café. Hein. Enfin, voilà, organiser la première rencontre dans ce café.
C'est ça, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu marrant, cette histoire. Hein. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit l'assistante sociale en arrivant. Elle fait oui, je crois que ta mère t'a vu quand vous étiez dans le café tout à l'heure. Effectivement, on est allé dans ce café, oui. Bon, après, on ne s'était pas parlé. De toute façon, on n'aurait pas pu communiquer, hein, puisque à l'époque, je parlais pas coréen de toute façon. Mais... Voilà, bon, elle n'était pas sûre non plus, hein, mais c'est vrai que la probabilité que c'était moi à l'époque, hein, était quand même très forte.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les 2 ans que tu as passés avec ta maman biologique, les aspects positifs que tu as retenus, peut-être certains aspects négatifs également ?
Donc nous sommes rencontrés en 2016, suite à notre rencontre, hein, ma mère a souhaité directement que je m'installe chez elle à Séoul. On en avait déjà un petit peu parlé déjà dans nos courriers qu'on avait échangés, hein, pendant les 6 mois. Enfin, j'avais expliqué que j'avais l'intention de rester sur Séoul après mon voyage, hein, pendant une année. Et elle m'avait proposé, hein, que je sois logé chez elle. Et finalement, nous avons même vécu pendant 2 ans ensemble. Hein. Au début, c'était un peu compliqué puisque je parlais pas coréen à l'époque, hein, quand je suis arrivé en 2016. Hein. Mais par la suite, j'ai enchaîné les cours de coréen intensif à l'université de Sogang, ce qui m'a permis de fil en aiguille de communiquer de manière plus aisée avec elle.
Ok, pour les cours de coréen, mais combien de temps as-tu mis pour vraiment commencer à parler, avoir une discussion de base avec elle?
Les cours de coréen à Sogang, hein, c'est des cours très, on va dire, intensifs. Hein, c'est du 5 fois par semaine, 4 heures. Donc là, c'est vraiment à la méthode coréenne, hein, bourrage de crâne à fond. Et je dirais que... au bout des 3 mois, ça me permettait déjà d'avoir un petit niveau, hein, qui me permettait d'avoir un semblant de conversation avec elle.
D'accord, bah, 3 mois, c'est très rapide quand même, hein, pour commencer à parler déjà une langue que tu connais pas du tout à la base. Ça me paraît rapide, quoi. Donc tu dois être doué pour les langues, l'apprentissage du coréen. Hein.
Peut-être, bah, pas vraiment, mais aujourd'hui encore, hein, j'apprends toujours, hein, le coréen. C'est une langue vraiment difficile et très différente du français. Mais voilà, à l'époque, hein, au bout des 3 mois, ça me permettait de faire le basique, hein, on va dire. C'est pas non plus des grandes discussions, hein, faut pas croire ça non plus, mais après, c'est le fait d'être en immersion en Corée, hein, et de vivre au quotidien avec ma mère biologique. Enfin, j'avais pas le choix, hein, si j'étais obligé de parler coréen à l'époque.
Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais.
C'est ce qui m'a permis d'un petit peu accélérer ma formation, entre guillemets. Hein. Donc pour revenir à l'histoire, j'ai eu aussi la chance hein, d'être accepté non seulement par ma mère mais aussi par sa famille de son côté. Hein. Donc à l'époque hein, j'ai eu la chance hein, de partager beaucoup de moments avec eux, hein, notamment les fêtes traditionnelles hein, telles que Chuseok ou Seollal. Hein.
Ouais, alors Chuseok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fête des moissons. Hein. C'est une grande fête en Corée qui a lieu une fois par an au mois de septembre en général. Et puis Seollal, c'est le nouvel an lunaire. Hein.
Tout à fait, donc on peut comparer ça en France avec Noël et le Nouvel An, juste pour faire un petit rapprochement.
Oui, bon, là au niveau de la chance, c'est vraiment carton plein puisque non seulement tu retrouves ta maman biologique, mais en plus de cela, ta famille maternelle est au courant de ton existence et t'accepte. Hein.
Oui, ils ont été au courant à partir du moment où j'ai repris contact avec ma mère biologique jusqu'à... Pendant longtemps, ils connaissaient pas mon existence non plus, hein. C'était un peu un secret. Ouais.
Oui, c'est pour ça hein, que je pense que c'est idéal comme situation, car pour aller plus loin, hélas, ce ne sont que des suppositions, mais comme dans plus de 80% des adoptions en Corée, il s'agit de jeunes mamans qui ont accouché hors mariage. Bon, en général, le père, il disparaît de la circulation, hein, il n'y a plus personne qui répond à l'appel, le papa est demandé à l'accueil. Ah ben non, il n'y a plus personne là, et il n'est pas là. Hein. Donc je suppose que c'était également le cas pour ta maman, non? Même si on va pas non plus rentrer dans les détails. Mais le fait que ta famille maternelle soit désormais au courant de ton existence, à mon avis, c'est un message fort et qui contribue à votre bonne relation.
Après, oui, je ne vais pas rentrer dans les détails de son histoire, peut-être. Ouais.
On va pas rentrer dans les détails de son histoire, non, mais c'était juste en fait pour dire que ça, c'est une situation en fait qui est très courante. Hein.
C'est en gros la situation dans laquelle elle s'est retrouvée à l'époque.
Voilà, donc, tu vois, par
Juste
exemple,
pour
dans mon
résumer.
cas, c'était la même chose. Hein. Donc, ma mère biologique n'était pas mariée, elle était jeune à l'époque, je crois qu'elle avait que 16 ans ou 18 ans. Hein. Et ben, forcément, elle l'avait dit à personne. Et encore aujourd'hui, alors j'ai plus de relation avec elle, hein, mais quand j'en avais une, ben, c'était pareil. Moi, j'étais encore l'enfant secret, hein, donc personne ne connaissait mon existence. Hein. Tel Calimero avec la coquille d'œuf sur la tête ou le petit mouton noir. Hein.
Ah, et puis c'est vrai que dans mon cas, elle n'avait pas non plus refait sa vie avec quelqu'un d'autre au moment où elle m'avait retrouvé.
Oui, mais tu sais, ma mère non plus. Hein. Alors, tu peux avoir refait ta vie. Alors, je suis tombé moi sur des cas où la personne avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre et l'avait malgré tout dit à son nouveau compagnon ou son nouveau mari. Hein. Donc, chaque cas est vraiment différent. Il y a aussi des cas dans lesquels la personne n'a pas forcément refait sa vie avec quelqu'un, mais décide tout de même de garder cette partie de sa vie hein, cachée, secrète. Hein. Parce que parfois, tu peux avoir la pression. C'est la pression. Hein. On veut pas trop remuer le passé. Hein.
Oui, non, c'est sûr. Après, chaque cas est à prendre. Au cas par cas, si on peut dire ça comme ça. Donc, à l'époque, hein, pour moi, hein, c'était vraiment une véritable immersion hein, dans la culture coréenne. Hein. La culture coréenne, hein, je connaissais pas forcément grand-chose avant de venir en Corée. Hein. Et le fait de vivre déjà chez ma mère coréenne et en plus de participer à des moments comme les fêtes traditionnelles en Corée, voilà, c'était vraiment la grosse immersion pour moi à l'époque. Hein. Donc, pour répondre à ta question sur les aspects négatifs, hein, si je peux les appeler comme tels, hein, je noterais que c'est surtout la différence de culture. Et peut-être aussi la non-maîtrise de la langue hein, qui peut amener parfois à des malentendus. Ça me rappelle hein, que voilà, si mes racines sont coréennes, hein, que je suis bel et bien imprégné de la culture française.
D'accord, ben rapidement par rapport à ça, donc toi, par rapport à ton identité, tu te sens français, hein?
C'est ça, je me sens français parce que bah, voilà, après avoir vécu 30 ans en France, on est forcément imprégné hein, de la culture française. Même si on arrive ici, qu'on a l'impression d'être coréen de visu, hein. Le fait d'avoir grandi 30 ans en France, hein, c'est difficile d'échapper à notre culture d'origine, malgré tout.
Oui, désolé, là encore une fois, je dévie, hein, l'identité n'est pas le sujet. Hein. Ok, alors connais-tu d'autres adoptés qui sont peut-être dans une situation similaire et qui entretiennent des relations régulières avec leur famille biologique?
Ah oui, je connais effectivement quelques adoptés qui entretiennent des relations avec leur famille biologique ou bien qui en ont entretenu. Hein. Ça dépend. Hein. C'est pas toujours évident de garder la relation. Pour donner un exemple, hein, je connais une personne hein, qui rencontre sa famille biologique à chacun de ses voyages en Corée. Donc cette personne, elle habite en France, elle vient régulièrement en Corée hein, pour un voyage et également pour rencontrer sa famille biologique. À chaque fois, ils sont toujours, enfin, à mon avis, ils sont toujours très très contents de se retrouver. Hein. Mais il y a toujours le souci de la barrière de la langue, puisque cette personne ne parle pas coréen, ce qui les empêche, à mon sens, hein, d'avoir une relation plus profonde. Hein. Et du coup, la discussion se limite souvent avec la discussion avec les mains ou bien avec le téléphone. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, les téléphones sont vraiment pratiques pour aider à la discussion, pour contrer un petit peu la barrière de la langue. Hein. Après, certains ont aussi la chance d'avoir des membres de leur famille qui parlent anglais, ce qui facilite la communication. Mais dans le cas où la communication n'est pas possible, je pense que certains adoptés ont même carrément coupé le lien avec leur famille biologique. Hein. Même après, si je pense que peut-être il y a eu d'autres raisons personnelles, hein, on ne connaît pas tout. Hein. C'est vrai qu'entretenir des fois une relation à long terme peut s'avérer difficile.
Oui, alors dans ton cas, tu vis en Corée, hein, tu parles coréen, tu as donc toutes les cartes en main pour que ta relation se passe bien. En revanche, lorsqu'on vient une fois par an en Corée, bon, ce qui est déjà pas mal, hein, et qu'on ne parle pas la langue, ça peut poser des soucis de communication, c'est certain. Par contre, à mon avis, cela apporte et peut tout de même apporter quelque chose de très positif dans la vie d'un adopté, puisqu'on est malgré tout privilégié de pouvoir se retrouver, partager un moment, passer du temps ensemble, ou se voir physiquement tout simplement, hein.
Non, après ça apporte aussi la réponse à un peu la question cruciale de tous les adoptés, hein, à quoi ressemblent mes parents biologiques. Donc je pense que c'est assez important ce point-là. Hein. Maintenir la relation à long terme est une chose, mais déjà le fait de voir, hein, une fois déjà, ça, je pense que ça permet de répondre déjà à une question très importante pour nous adoptés.
Hein. Alors oui, tu as tout à fait raison, hein, c'est un élément essentiel dans la vie de savoir d'où on vient, à qui on ressemble. Hein. Bon là je vais reprendre, désolé, hein, une expression vraiment à 3 francs 6 sous, hein, qu'on utilise à toutes les sauces. Hein. Si tu sais pas d'où tu viens, c'est difficile de savoir où tu vas. Hein. Donc c'est vraiment ça, et des choses simples, des questions que quelqu'un qui n'a pas été adopté pourrait trouver complètement banales, hein, comme ben, est-ce que j'ai les mêmes yeux, est-ce que j'ai le même visage. Pour nous, ça peut être, j'irais jusqu'à dire, carrément fondateur. Hein. Mais arrêtons de divaguer, hein. Et donc je voudrais savoir, Julien, si tu avais peut-être quelque part une certaine rancœur, hein, par rapport à ton adoption ou le fait d'avoir été abandonné. Hein.
Alors aujourd'hui, non, j'ai pas de rancœur, hein. Peut-être dans le passé, parce que ayant grandi en campagne, hein, j'étais souvent le seul asiatique, hein, et peut-être qu'il m'arrivait à un certain moment de ma vie, dans ma jeunesse, hein, de vouloir renier mes origines.
Hein. D'accord, mais qu'entends-tu par renier tes origines?
Donc, ce que j'entends par renier mes origines, c'est peut-être ne pas vouloir être coréen, peut-être être français, disons, de peau blanche, entre guillemets. Voilà, après, hein, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement sain avec beaucoup d'amis et des parents adoptifs ouverts sur la discussion de l'adoption. Et c'est peut-être aussi, hein, ce qui a apaisé cette rancœur à l'époque. Hein. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, aujourd'hui, hein, j'ai l'ensemble de mes réponses, hein, sur mon passé, du pourquoi de mon adoption. Si je puis dire, hein, cette rancœur, s'il y avait dans le passé, hein, elle n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et pour terminer, hein, je voulais aussi parler de l'adoption en Corée aujourd'hui. Et je me suis un petit peu renseigné, hein, les derniers chiffres, hein, que j'ai pu trouver en 2018. Hein, la Corée était encore le troisième pays où les Américains ont adopté le plus de nourrissons, donc 276 adoptions. Et ce, malgré que la Corée, hein, soit une des économies les plus riches, ainsi que de nombreux problèmes de natalité au sein du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, le taux de natalité en Corée est inférieur à 1. Donc c'est toujours assez surprenant qu'ils envoient leur bébé dans les pays étrangers. Mais il faut savoir aussi qu'en Corée, hein, il existe des traditions liées au lien du sang qui prévalent encore. C'est la raison pour laquelle je pense que de nombreuses familles sont encore réticentes à adopter en local, enfin au sein du pays. Autre point aussi pour les adoptions domestiques, hein, la plupart des familles adoptives en Corée, après faire les filles. D'après les chiffres de 2016, 65% des nourrissons adoptés étaient de sexe féminin, car il y aurait un préjugé pensant qu'il serait plus facile d'élever une fille qu'un garçon en Corée, et qu'il y aurait entre autres moins de problèmes d'héritage plus tard. Et j'ai pu également me rendre compte personnellement du phénomène en visitant la maternité du Hold en 2018. Hein. Les infirmières m'ont indiqué que chaque semaine, elles accueillaient entre 3 et 4 nourrissons.
Bon, c'est bien que tu précises qu'on parle d'adoption domestique. Hein. La préférence pour l'adoption de filles, au moins, ça me fait penser à l'adoption en Chine. Cette fois-ci, on parle bien d'adoption internationale. Hein. Il est intéressant de constater que la plupart des enfants qui ont été adoptés de Chine vers les pays occidentaux étaient ou sont des filles. Alors, certains ou certaines plutôt me répondront que c'est également le cas en Corée. Mais là n'est pas le débat, hein. Je reviens sur des chiffres puisque j'ai ceux de 2019 en Corée. On est sur du 387 adoptions domestiques et 317 adoptions internationales.
On est quand même sur du 50-50, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils nous avaient annoncé que malgré tout, aujourd'hui, hein, ils essayaient quand même de privilégier, hein, les adoptions domestiques sur les adoptions internationales.
Oui, alors là, attention, c'est le discours officiel politique, hein. Ça reflète pas forcément la vérité, hein. Ça, ils nous le tiennent, ce discours-là, depuis les Jeux Olympiques, hein, de 88. Hein. Donc, bon, bref, on va pas rentrer dans un débat politique.
Hein. Après, les mentalités changent. Hein. C'est vrai qu'il y a 20 ans, les adoptions domestiques, ça se faisait pas. Hein. Aujourd'hui, hein, en Corée, ils sont quand même un peu plus ouverts, hein, puisqu'il y a quand même, comme tu as dit, hein, plus de 300 adoptions domestiques, hein, ce qui montre que malgré tout, les mentalités changent en Corée, je pense.
Alors, dernière question pour toi, mon cher Giuliani. Comment qualifierais-tu la relation que tu as actuellement avec ta maman biologique? Je sais que vous avez l'habitude et vous aimez bien partir en virée à travers le pays. Hein.
Donc aujourd'hui, hein, je n'habite plus avec ma mère, on habite séparément à Séoul. Hein. En général, on essaye de se voir une fois par semaine, hein, pour déjeuner ensemble. Je dirais que maintenant, on a vraiment créé une relation mère-fils, hein, et un peu comme n'importe qui, hein, je dirais. Hein. Maintenant, hein, je dirais que je maîtrise assez bien le coréen, donc bon, quand on se voit, hein, on se tape la discussion, hein, comme si un peu comme si on s'était jamais vraiment quitté, hein, pendant 30 ans, même si forcément il y a la cassure. Hein, mais voilà, si je pouvais déterminer ma relation aujourd'hui avec ma mère, hein, je dirais que c'est une relation normalisée entre guillemets. Hein.
Et par curiosité, hein, désolé, je t'embête, hein, mais est-ce que tu l'appelles maman par exemple, Oma en coréen?
Oui, c'est vrai qu'elle l'appelait ici par son prénom, c'est un peu bizarre. Enfin, maman coréen, hein, Oma. Hein. D'ailleurs, elle aussi, hein, elle m'appelle fils. Hein, ici, on utilise souvent le terme fils pour appeler son fils, hein, Adol, tu connais. Hein. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'en français, on nous appelle en général par notre prénom. Ici, on nous appelle toujours fils.
Bah, tu appelles aussi ta maman en France maman, hein.
Oui, tout à fait. Bon, j'ai toujours des relations avec. J'ai pas coupé le lien non plus avec mes parents adoptifs. Hein. D'ailleurs, hein, ils sont venus deux fois en Corée avec moi. Hein. Ils ont eu la chance de visiter la Corée deux fois. Donc, bah, lors de ma première rencontre, hein, ils étaient avec moi au Holt. Hein. Puis ils sont venus aussi l'année dernière. Hein. On a pu à nouveau refaire une réunion de famille entre guillemets franco-coréenne.
Eh ben dis donc, tu as vraiment énormément de chance, hein. C'est carton plein, hein, comme on dit pour toi. Donc voilà, tu as joué sur tous les tableaux et tu as gagné.
Non, et puis c'est vrai qu'en plus, ma famille biologique, hein, est plutôt ouverte sur le sujet. Hein. Pour prendre encore d'autres exemples, hein, il y a d'autres familles biologiques, hein, qui ont aussi du mal avec le fait que leur enfant entame les recherches, hein, peut-être...
Tu veux dire des familles adoptives, hein.
Oui, que leurs enfants adoptifs, hein, entament les recherches. Il y a des parents pour lesquels ça leur plaît pas trop. Hein. Pour moi, ils m'ont toujours
soutenu.
Ils m'ont jamais mis de barrière, hein, pour mes recherches.
Hein. Ok. Carton plein, Julien. Tant mieux pour toi. Hein. Et donc là, pour conclure, vraiment pour conclure, qu'est-ce que tu aimes bien faire avec ta maman? Qu'est-ce que vous faites en général quand vous vous rencontrez?
Eh bien, c'est manger au restaurant. Essayer de manger dans les bons petits restaurants, puisque ici à Séoul, hein, on a l'embarras du choix au niveau des restaurants.
Ok, donc ben, cette fois-ci, on se quitte sur cette petite note gastronomique. Hein. Et merci infiniment à toi, hein, pour toutes tes réponses, et on se retrouve tout de suite pour notre partie voyage. Ouais, allez Julien, on te retrouve cette fois pour que tu nous racontes un petit peu cette virée que tu as effectuée avec ta maman biologique.
Alors oui, aujourd'hui pour notre petite virée, nous partons à Andong dans la province de Gyeongsan du Nord. Donc située à 200 km de Séoul, la ville a reçu le titre de la capitale de l'esprit coréen en tant que cœur de la culture confucéenne. Et donc je suis déjà allé à Andong en 2013 lors de mon premier voyage en Corée et j'avais vraiment envie d'y retourner depuis un petit moment. Et comme tu l'as indiqué en préambule, c'est un voyage que j'ai effectué avec ma mère coréenne. Et depuis notre rencontre, nous avons vraiment pris goût à explorer la Corée ensemble.
Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous resituer dans le temps cette excursion à Andong?
Alors oui, hein, c'était en juin dernier, donc il faisait déjà plutôt chaud, hein, c'était pas non plus la canicule du mois d'août. D'ailleurs, hein, j'en profite pour vous donner un petit conseil au voyage. Voyager au mois de juin est idéal pour profiter d'un climat pré-estival. Le ciel est habituellement dégagé et il y a beaucoup moins de monde qu'en plein été. Alors donc on est parti de Séoul en voiture, on a mis environ 3 heures pour arriver au village Hawae. Donc le village Hawae est un petit peu excentré, il se situe à environ 25 km du centre-ville d'Andong. Alors oui, là on débarque vraiment en pleine campagne coréenne. Mais là Félix, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le village Hawae.
Alors oui, hein, le village date du 14e, 15e siècle, on est vraiment là à l'aube de la dynastie Joseon. Le village Hawae, c'est une parfaite illustration des valeurs confucianistes qui respectent aussi un principe que l'on retrouve souvent dans l'architecture traditionnelle coréenne qui s'appelle la géomancie, hein, ou pungsu en coréen, ou feng shui en chinois. On appelle cette pratique le pungsu jiri sol, pour être exact, hein, qui est consacré à l'étude de la théorie des éléments que sont le vent, la terre et l'eau. Donc pour simplifier, hein, ces éléments sont associés à la bonne santé, la bonne fortune, hein, ou la prospérité d'un groupe, d'un clan, assurant un équilibre entre l'homme et la nature. On dit que le point de convergence entre les énergies du paradis et de la terre se situe sur les pentes d'une montagne. Ce sont des lieux qu'on appelle hyol en coréen et qui sont propices à la construction d'édifices prestigieux comme les palais royaux par exemple. Alors le village Hawae, c'est aussi un lieu qui respire la poésie, hein, puisque des poètes coréens du XVIIe-XVIIIe siècle ont écrit et raconté ce cadre naturel exceptionnel, un véritable havre de paix mélangeant montagnes et cours d'eau. Pour finir, le village de Yangdong vaut également le détour. Il se situe à 90 km du village de Hawae et est en quelque sorte son cousin.
Alors pour moi personnellement, le village Hawae est un des villages traditionnels que je préfère. Je pense qu'il est un peu plus typique et un peu moins commercial entre guillemets. Le village est encore habité, ce qui lui donne un air d'authenticité. Bon alors après, il faut pas se tromper, ça reste une attraction très touristique qui attire chaque année de nombreux visiteurs, notamment le week-end. Petite parenthèse refermée, nous arrivons à destination et le parking se trouve à l'extérieur du village. Il faut prendre une navette, mais on peut aussi louer une voiturette privée avec chauffeur. Et donc là, à peine descendu du minibus, on entend de la musique. Et là, on arrive juste à temps pour assister à un spectacle traditionnel de la danse des masques. Et là, petite pause à nouveau. Félix, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la tradition de la danse des masques en Corée.
Oui, alors la danse des masques s'appelle Talchum en coréen. Tal, c'est le masque, hein, et Chum, c'est la danse. Cette danse est à l'origine un rituel chamanique qu'on retrouvait dans les villages pour apporter bonne récolte et protection. La danse est au fur et à mesure devenue un spectacle populaire aux allures de parodie. Une critique humoristique pour se moquer des hautes classes sociales. On tourne en ridicule par exemple un moine bouddhiste ou on met en scène la décadence d'un aristocrate. Je vous conseille donc d'assister à ce spectacle si vous en avez l'occasion pour vous plonger un peu plus dans le folklore.
Donc oui, alors effectivement, c'est une représentation qui nous emmène au cœur de l'une des plus anciennes traditions artistiques coréennes, surtout à ne manquer sous aucun prétexte si vous venez à Hawae. Après le spectacle, on commence la visite du village. Là encore, vous pouvez louer une petite voiture électrique. Nous, on préfère opter pour un parcours à pied pour une meilleure immersion. Bon alors ici, les voitures électriques, c'est pas très traditionnel, mais la modernité coréenne nous rattrape, même dans ce lieu d'antan. Le village est entouré du fleuve Nakdong, d'où la signification du village Hawae, qui signifie village entouré d'eau en coréen. Alors ici, on se retrouve au milieu des rizières et des montagnes. En arrivant de Séoul, le contraste est frappant. On se laisse transporter hors du temps, on se balade dans les rues étroites. L'architecture est d'époque, issue de la dynastie Joseon. Le village est composé de nombreuses maisons traditionnelles aux toits de tuiles dites Waga ou de chaumes dites Choga. Et pour la petite histoire, le village était principalement habité par le clan Liu de Pungsan. Alors Pungsan, c'est une ville qui est située entre Andong et le village Hawae pour le situer. Et cette communauté a largement contribué à l'enracinement de la culture confucéenne au cœur du village. Et on y retrouve naturellement les traces de ce clan, telles que des résidences construites en l'honneur de leur chef. Mais revenons à notre visite. On prend le temps d'arpenter chaque petite ruelle et de visiter les nombreuses maisons du village. Après pratiquement 4 heures de marche, on termine par une vue imprenable sur le village Tawae depuis la falaise Puyongdae. Et là, c'est la pose photo obligée pour le petit souvenir. Alors, nous n'avons pas pu y aller par manque de temps, mais il y a également un site qui vaut le détour, c'est l'école confucéenne de Byeongsan-sowon, située à 2 pas du village Hawae. Autre petite astuce, si vous prévoyez de passer la nuit sur place, essayez le couchage au sol dans l'une des maisons traditionnelles pour aller plus loin dans votre immersion. Mais là, attention, d'eau sensible, s'abstenir. Et pour finir notre périple en toute beauté, direction le marché traditionnel d'Andong, et au menu, la spécialité de la région, j'ai nommé le jimdak. Donc le jimdak, c'est un plat composé de poulet, de légumes et de nouilles de patates douces, que l'on appelle en coréen tangmyeon. Alors, nous sommes en Corée, faut savoir que c'est un plat assez épicé. Avant de repartir, rien de tel qu'une petite promenade sur le pont Wolyongyo en soirée pour vous rafraîchir. Donc ce pont, c'est un pont en bois construit en 2003 qui est le plus long de Corée. C'est un lieu idéal pour une petite promenade nocturne. Il est plutôt conseillé d'y venir le soir pour admirer ses beaux éclairages. Le nom du pont Wolyongyo signifie « pont qui brille au clair de lune » en coréen. Une raison de plus pour venir le traverser à la nuit tombée. Il existe aussi une légende. Il se dit que si vous tenez la main d'une femme que vous aimez et que vous traversez le pont Wolyongyo jusqu'au bout, l'amour deviendra réalité. Je ne sais pas ce que tu penses de cette petite légende, Félix, mais sur ce, moi je vous laisse songer sur cette belle superstition.
Oh là là, Julien, mais le que c'est romantique ça. Mais ça fait quand même un peu amour à sens unique, hein, le tchaksarang en coréen. Hein, parce que si on espère que l'amour deviendra réalité, ben en fin de compte, ça veut dire qu'elle ne nous aimait pas qu'on traversait le pont. Hein. Bon, allez, j'arrête, Julien. Hein, j'ai ruiné là ta note de romantisme. Hein. Et on arrive déjà à la fin de ce petit épisode. On se retrouve prochainement dans le Corée Voyage Show. D'ici là, on attend vos réactions sur Twitter, sur Instagram, hein, si vous n'avez pas Twitter. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Le plus simple, c'est de se connecter avec votre adresse Gmail sur Google Podcast. Pour les amateurs de pommes, retrouvez-nous sur Apple Podcast. Bon allez, celle-là, elle était facile. Et puis pour les audiophiles, on est aussi sur iTunes, Spotify ou encore Deezer. Allez, je remercie encore tout le monde et sur ce, je vous dis à mes pecs, à la prochaine.